Trop d'instruments de guerre détournés, Alain Baraton, bonjour.
Bonjour, il y a effectivement l'agriculture.
Le végétal, tout à fait, entre autres les questions de destruction des récoltes, de pollution des terres, de famine. L'agriculture devient aussi une arme de guerre et le témoignage des journalistes reste très important.
Et oui, car cette arme de guerre, vous vous en doutez, est secrète et il faut que ce soit des journalistes qui nous révèlent les véritables scandales. Nous sommes en 1942 et les Américains envisagent de bombarder les rizières du Japon avec de puissants herbicides. Ils ont mis au point deux produits, le 2,4-D et le 2,4-5-T. Assembler ces deux substances hautement toxiques se transforme en un défoliant terrible appelé agent orange. Le président Roosevelt s'oppose à son utilisation et stoppe le projet. En 1961, l'agent orange sera utilisé secrètement en Indochine. D'autant plus secrètement qu'officiellement, les Américains ne sont pas encore en guerre. Pendant 10 longues années, 83 millions de litres de défoliant sont largués sur les rizières, les forêts, les villages. Les dégâts sont énormes. Les plantes et la viande sont contaminées. Les maladies explosent comme les leucémies et les cancers. Mais les fabricants de l'agent orange contestent toute responsabilité, s'appuyant sur les travaux de Sir Richard Doll, un épidémiologiste de réputation mondiale. Doll a toujours contesté la relation entre le défoliant et les maladies, et pour cause. Le journal The Guardian révèle que celui-ci fut payé pendant 20 ans par les fabricants du produit et par Monsanto en particulier. Vous savez, Monsanto, cette société qui commercialise aujourd'hui le Roundup. Rappelez-vous la publicité de Roundup, un chien qui déterre un os dans un sol propre, car désherbé par Roundup. Les tribunaux ont condamné la presse, la société, pour publicité mensongère. Ce sont des journalistes qui ont révélé le scandale de l'agent orange. Fabrice Nicolino et François Veillerette, dans Pesticides, révélation sur un scandale français aux éditions Fayard, dénoncent eux aussi les industries qui polluent et tuent notre environnement et notre santé. Ce sont encore et toujours les journalistes qui diffusent aujourd'hui auprès du grand public les travaux du professeur Gilles-Éric Serlini de l'Institut de biologie de Caen, un scientifique qui a constaté que le Roundup, avant d'être herbicide, était embryoncide, un désherbant qui peut endommager ou détruire les cellules de l'embryon humain avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Alors il existe quantité de Roundup. Les travaux ont porté sur les quatre principaux commercialisés partout dans le monde. Le constat est accablant. Dilué 100 000 fois, j'ai bien dit 100 000 fois, une dose autorisée dans les OGM et que l'on trouve dans les cours d'eau, il est toujours et encore très fortement toxique. Signalons aussi le livre du professeur Serlini qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Joseph Lyon. Nous pourrons bien sûr en reparler bien sûr, un ouvrage qui s'appelle « Nous pouvons nous dépolluer ». Pour terminer, juste une réflexion. Que deviendrait le travail de ces hommes de science sans les journalistes? On est en droit de se poser la question.
C'est en effet une bonne question importante. À propos de la guerre faite aux végétaux, ne pas oublier non plus le témoignage, je crois que c'était hier ou avant-hier, de Frédéric Barrère, encore lui décidément, qui est dans la bande de Gaza, qui s'est rendu dans des zones où la présence du Hamas n'était pas connue, qui sont des zones d'exploitation qui ont été ravagées, il n'y a plus rien. Donc là aussi, c'est une guerre, alors on ne va pas faire d'angélisme. Il y a des raisons qui peuvent expliquer de façon plus ou moins convaincante d'ailleurs le pourquoi d'une guerre. Sauf que là, personne, pas de témoin. On ne sait pas ni pourquoi ni comment. Et ça, du point de vue du fonctionnement de la démocratie, ça n'est pas possible. Mais Laurent Gavreau, un commentaire peut-être, parce que on a connu ça souvent, malheureusement.
Je voulais profiter de la présence d'Alain Baraton pour vous donner deux informations. D'ailleurs, je souscris évidemment à vos propos. On a pensé pendant très longtemps que dans l'ère d'industrialisation qu'on avait, toutes les questions d'agriculture, de nourriture et tout ça, c'était dépassé, ça n'avait plus aucun intérêt. Et on voit que ça revient complètement dans l'actualité. Vous savez probablement que je m'occupe du premier musée international sur l'écologie et le développement durable qui s'appelle Musée du Vivant, qui est dans la grande école AgroParisTech que vous connaissez. Et on ouvre en ce moment une télévision en ligne qui s'appelle Ecolib TV avec des reportages très différents qui vont se nourrir. Deuxième information qui rejoint notre thème aujourd'hui, au château de Versailles que vous connaissez un tout petit peu, cher Baraton.
Et depuis un petit peu 30 ans.
À l'initiative de Jean-Jacques Ayagon, vous savez que j'avais fait un grand livre sur les peintures du musée d'histoire de France qui s'appelait Le Musée Révélé. Et je travaille en ce moment, là, ces jours-ci, à finir le catalogue d'une exposition qui aura lieu cet été, sur notre thème, hein, qui s'appelle « La guerre sans dentelle » et qui est une comparaison dans la galerie des batailles qui aura lieu de mai à septembre entre peinture et photographie. Comment est-ce qu'on représente la guerre? Comment est-ce qu'on l'a représentée dans la peinture à travers ces grandes vues panoramiques et quasi filmiques qui ont été construites dans la galerie des batailles? Et comment, à travers l'histoire mondiale de la photographie, il y a eu des représentations qui sont en rapport avec
ces peintures? On en reparlera l'été prochain, alors, c'est ça?
Et d'un mot, pour poursuivre aussi la réflexion d'Alain Baraton à l'instant, qui évoquait les agents orange pendant la guerre du Vietnam, il semble maintenant évident et démontré que de nouvelles armes ont été utilisées à Gaza, et pas seulement les bombes au phosphore, et on parle du phosphore blanc dans les bombardements, des armes d'une nature différente qui, semble-t-il, se développent ensuite dans le corps humain, provoquant des tumeurs, des cancers, enfin des choses abominables. Donc les guerres sans images, ce sont aussi souvent, ça avait été le cas pendant la guerre d'Espagne, quand les armées allemandes testaient leur nouveau matériel, les guerres sans images, ça permet aussi de traiter les nouvelles armes, de les tester, de voir leur efficacité, pas de témoins, on regarde comment ça marche, et malheureusement ça marche bien.
Demain nous parlerons de la guerre de 1914-1918, je donnerai l'exemple d'un homme qui fut brillamment récompensé pour ses travaux, parce que justement à cette époque, la presse était muselée, vous verrez les dérives, lorsque la presse ne prend pas, j'allais dire, le parti d'informer librement, les conséquences peuvent être dramatiques.